Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12h. Reprise partielle des élections locales du 2 décembre prochain, la ministre d'État Désirée Oulotto invite les populations de la région du Guémon à la responsabilité pour des élections apaisées. Vous l'entendrez à l'entame de ce journal. Et puis nous parlerons également de santé dans cette édition avec la lutte contre le sida dont la prévalence a considérablement baissé de 4,7% en 2010 à 1,82% fin 2020 selon le ministre ivoirien de la Santé Pierre Ngoudemba. Dans l'actualité internationale, la délégation iranienne quitte la COP28 aux Émirats arabes unis en raison de la présence d'Israël. L'invité de la rédaction de ce jour est Dr Douyeri Thierry Ouattara, chef de service de la surveillance et de la riposte au niveau des services vétérinaires. Il répondra aux questions de Paul-Bénédicte Bolou. Voilà pour le sommaire. La reprise des élections locales partielles, municipales et régionales dans la région du Guémon. Eh bien, à cet effet, la ministre d'État Anne Désirée Oulotto, par ailleurs cadre de la région, joue la carte de la prévention. Elle en appelle à la responsabilité de tous les fils et filles et cadres de la région pour le maintien des élections apaisées, gage de développement. Cela fait suite à des violences observées lors des dernières élections locales du 2 septembre dernier. Le point avec Stéphane Adams, notre envoyé spécial.
La reprise des élections municipales et régionales dans la région du Guémon en mobilisation des électeurs pour la ministre d'État Anne Désirée Oulotto, la paix conduit au bien-être dans les régions. Il ne faut pas se tromper de combat, a insisté l'envoyé du gouvernement auprès de ses parents.
Les jeunes du Guémon attendent beaucoup en matière d'insertion socio-professionnelle, en matière d'emploi. Les femmes attendent beaucoup en matière d'autonomisation. Les populations, dans leur grande majorité, attendent dans tous les compartiments. Il s'agit pour nous de répondre aux attentes de nos concitoyens. Il y va de l'intérêt des populations et de la région du Guémon.
Le message de l'envoyé du gouvernement semble trouver bonne écoute. Évariste Saha, cadre et fils de la région du Guémon.
Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Madame Anne Désirée Oulotto, à travers son message, elle a ramené tout le monde à la raison, les uns et les autres, la main dans la main. Nous avons entendu des messages de motivation, de rassemblement, de cohésion. Nous profitons aussi pour dire un grand remerciement au président de la République qui l'a nommé ministre d'État.
Rappelons à toutes fins utiles, les enjeux de développement évoqués se trouvent sur toutes les lèvres des candidats comme slogan de campagne. Stéphane Adams de Diokwe, Radio de la Paix.
Et puis démarré officiellement le samedi 24 novembre dernier à minuit, la campagne électorale des partielles s'est achevée ce jeudi, sinon hier jeudi. Et donc comment les populations de Tiassalé ont vécu cette campagne sur le terrain, quelles ont été leurs appréciations, surtout au niveau du comportement des candidats. Élément des réponses dans ce reportage de Jean-Claude Mabéa, notre envoyé spécial à Tiassalé.
Contrairement à la campagne des municipales et régionales du 2 septembre dernier, celle des partielles s'est déroulée sans heurts, selon Kouakou Yao Florent, conducteur de moto-taxi.
Par rapport à la première campagne passée, cette fois-ci, on voit que les choses se déroulent bien. Parce que la première campagne, il y a des candidats qui se sont adressés envers d'autres candidats de façon violente. Nous, on n'a pas apprécié ça. On n'a pas voulu intervenir aussi. On est resté calme et puis on a vu ce qui s'est passé.
Il en est de même pour Sarah Kapelagi et Diomandé Sali, toutes deux commerçantes.
Il n'y a rien de grave. Depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, je trouve la campagne très bien. La Tiassalé, ça va.
Mais Kofi Jacques, conducteur de moto-taxi, a évoqué le cas de certaines affiches déchirées en début de campagne.
Nous, on veut que tout se passe bien, seulement que bon, il y a des affiches qui déchirent, c'est pas bien, parce que ça amène des palabres. Aujourd'hui, nous, on veut que tout se passe bien.
Et Kouakou Pacom, couturier au marché de Tiassalé, a émis le vœu suivant.
Tout va bien pour l'heure. Maintenant, je souhaiterais que tout se passe dans la tranquillité. Pour qu'il y ait toujours la paix qui a été depuis à Tiassalé.
Selon les trois candidats en lice, dans l'ensemble, la campagne électorale s'est déroulée dans un climat apaisé. Jean-Claude Mabéa, Tiassalé, Radio de la Paix.
Et puis à faire caisser Dougou, le corps préfectoral joue également sa partition pour garantir un environnement électoral apaisé avant, pendant et après le scrutin de demain, samedi 2 décembre. À cet effet, le secrétaire général 1 de préfecture, Tapé Labat, explique en quoi consiste cette implication au micro de Marcel Bouni.
Notre implication, c'est de faire en sorte que cette élection se passe dans un climat apaisé. Et c'est dans ce but-là que, je dirais, depuis le 15 novembre, Junot de la Paix, nous avons convoqué tous les candidats en vue de parler de l'élection apaisée. Et ce jour-là, chacun a parlé. Ce jour-là, c'est lui d'exutoire. Et on a plus ou moins compris ce qu'il y a comme problème. Ils ont tous ressassé le passé. Alors qu'il s'agit de voir le présent, de voir comment organiser de meilleures élections et de ne plus refaire ce qui s'est passé. On s'est compris, on a pu faire la réunion. Depuis lors, avec l'entremise du comité civil et militaire, avec l'entremise du militaire délégué, nous avons fait plusieurs réunions. La CEI, la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, ça a été des séances de formation pour faire comprendre aux populations qu'il s'agit d'élections apaisées et que si on le vit vraiment, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on n'a pas fait. Toujours avec la CEI, nous avons rencontré les candidats et les directeurs de campagne. Là encore, nous avons parlé, nous sommes compris sur de façon pratique ce qui doit être fait le jour des élections. On a toujours associé les jeunes et les femmes et je dirais les leaders communautaires. Donc nous sommes sûrs que tout va bien se passer. C'est une certitude, ça m'est un souhait.
À l'instant, le secrétaire général 1 de préfecture de Ferkessé, Dougou Tapé Labat. Et puis, il était au micro, comme je le disais, de Marcel Bouni. Marcel Bouni, avec qui nous restons, qui a couvert récemment les travaux d'ouverture d'un colloque international pluridisciplinaire sur les crises sécuritaires en Afrique. Un colloque qui s'est ouvert le mardi 28 novembre à Korogo, dans un hôtel de la place. Et c'est sur initiative du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique et leurs différents partenaires. Il s'agissait de réfléchir sur le thème crise sécuritaire en Afrique, diagnostic, défis et stratégie pour un développement durable.
Qu'est-ce qui motive l'organisation de ce colloque? La réponse avec le docteur Sangaré Yaya, secrétaire général du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation.
Toutes les composantes de l'intelligence africaine doivent travailler ensemble avec les forces de défense et de sécurité, avec les intellectuels pour apporter des solutions. C'est l'ambition de permettre à l'Afrique d'être le continent du futur, le continent de l'avenir.
Un enjeu qui nécessite une synergie de réflexion, souligné par le professeur Diomandé Draman, vice-président de l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo.
Les aspects d'internationalité et de pluridisciplinarité de notre colloque viennent trouver un sens plus profond. C'est pourquoi aucun discours ne pourrait combler les attentes profondes et légitimes de notre société et de nos concitoyens face au péril le plus terrifiant de notre époque, l'insécurité.
Les travaux porteront donc sur plusieurs axes définis par le professeur Koulibaly Adama, président du comité scientifique du colloque.
Crise sécuritaire et défense des États, les crises politiques et institutionnelles, démocratie et état de droit, la sécurité alimentaire et environnementale, la sécurité sanitaire et la protection sociale, la crise des systèmes éducation-formation, sécurité des données informatiques et cybercriminalité, sécurité linguistique.
Des axes de réflexion dont les résultats permettront d'amorcer un développement cohérent et durable en Afrique. Marcel Bonnet Korogo, Radio de la Paix.
À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour cette 36e édition, le slogan national choisi est « Les communautés en première ligne ». Et le thème au plan international est plutôt « Confier le leadership aux communautés ». Donc hier, jeudi 30 novembre, à son cabinet, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a salué les progrès observés et les défis à relevé qui passe par une synergie d'action. Un extrait de la déclaration du ministre de la Santé, Pierre Ngoudemba.
Les résultats en matière de lutte contre le sida dans notre pays ces dernières années montrent que la prévalence de la maladie a considérablement baissé, passant de 4,7% en 2010 à 1,82% à fin 2020. Durant la même période, le nombre de nouvelles infections à VIH-sida a connu une baisse de 66% et le nombre de décès liés au sida a baissé de 70%. Ces résultats encourageants ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue. Les efforts qu'il nous reste encore à accomplir pour atteindre nos objectifs 3x95 82% des personnes vivant avec le VIH-SIDA ont été dépistées. 87% d'entre eux ont bénéficié du traitement antirétroviral et 87% ont obtenu une suppression de leur charge virale. Ces résultats devraient être améliorés si nous ambitionnons d'arriver à l'élimination du SIDA dans notre pays à l'horizon 2030. Pour combler ces gaps, l'engagement de tous est plus que nécessaire. Gouvernement, partenaires techniques et financiers, professionnels de santé, sans oublier les communes. Le rôle de ces dernières est déterminé pour parcourir les derniers kilomètres qui nous séparent de l'objectif de l'élimination du VIH-SIDA ici à 2030. C'est toute la signification de ce thème de cette 36e journée mondiale de lutte contre le SIDA qui appelle à leur confier le leadership dans la réponse face au VIH-SIDA, promouvoir le comportement sain et à moins de risques, contribuer à améliorer le taux de dépistage du VIH-SIDA chez les enfants exposés, les hommes de 25 ans et plus et chez les jeunes, augmenter la couverture en traitement antirétroviral, de même qu'assurer le maintien durable dans les soins des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Je saisis l'opportunité pour lancer un appel aux communautés à l'effet de briser les barrières et la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Vous écoutiez le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoudemba. Parlons de la 7e édition du Forum international et le Salon africain des transports FISAT, une plateforme d'échange pour les professionnels des transports. Eh bien, ce salon s'est ouvert le 29 novembre dernier au Parc des Expositions d'Abidjan et prévu se tenir sur 3 jours. Le FISAT réunit les professionnels de transport et de la logistique des secteurs connexes et est organisé par Africa Transtour. Ce salon a été lancé officiellement par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Mata Touré.
C'est sur le thème modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures que des experts en provenance de la France, de la Belgique ou encore du Maroc vont échanger et démontrer leur savoir-faire. Magnété Bamba est commissaire général du FISAT 2023.
Nous avons ici une plateforme par excellence qui met en face des institutionnels ou les experts du secteur privé.
Docteur Sile Siloui est le président du comité scientifique.
Avec un accent particulier sur la modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures, mais sous l'angle de la durabilité, de la sécurité, de la digitalisation et de l'employabilité des jeunes.
Amadou Kone, ministre des Transports, est revenu sur l'importance de ce forum.
C'est une vitrine pour toutes les avancées que nous avons notées dans le secteur des transports. C'est également le lieu pour nous, Côte d'Ivoire, de prendre une position importante en matière de transport et de logistique.
Enfin, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, quant à lui, a salué à la dimension internationale les travaux attendus au cours de ce salon.
Le présent forum international et salon africain des transports s'attardera sur les différents défis que rencontre le secteur des transports. Ce secteur permet en effet de rapprocher les marchés, de rapprocher les peuples, de mettre ensemble les connaissances et de conjuguer les compétences sur tout le continent.
Ce forum sera meublé par des expositions commerciales, d'un forum de discussion, des panels et des rencontres d'affaires et une exposition de véhicules électriques.
La Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a adopté hier jeudi 3 projets de loi présentés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agit notamment de 2 projets de loi de modification qui ajoutent à la liste des incompatibilités à la fonction de gouverneur de district autonome d'Abidjan et de Yamoussoukro, la fonction de sénateur, mais également d'un projet de loi de ratification d'ordonnance instituant des dispositions dérogatoires au code électoral par réaménagement de certains articles en vue de la tenue des élections locales et sénatoriales de 2020. Au terme des adoptions, le ministre Vagondo Diomandé a salué l'intérêt des députés pour ces textes.
Évidemment, nous sommes retrouvés devant les députés ce matin pour introduire 3 projets de loi, dont 2 ont trait au district autonome de Yamoussoukro et celui d'Abidjan, et un autre projet qui a trait donc aux dispositions dérogatoires au code électoral, exclusivement pour l'élection des élections locales de 2023. Projet de loi qui a été donc adopté à l'unanimité, ce qui dénote la compréhension et l'accompagnement de l'Assemblée nationale aux mesures qui sont prises par le gouvernement pour faciliter la vie publique et rendre les résultats beaucoup plus efficaces. Mais au-delà justement des textes que nous avons présentés, je salue la contribution des députés qui a eu à cœur de faire des propositions dans le cadre de l'amélioration du statut des élus locaux de façon globale, dossier sur lequel nous sommes en train de travailler avec la plus grande attention. Je voudrais assurer que le président de la République, conformément aux instructions qu'il nous donne, a à cœur de faire en sorte que chacun se retrouve dans le tissu socio-économique et dans le train du développement de notre pays. Je voudrais donc, en son nom, remercier mesdames et messieurs les députés pour les contributions efficaces et pertinentes surtout qui sont faites à chaque fois que nous passons devant l'hémicycle, ce qui constitue pour nous de grandes périodes de plaisir.
C'était le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans l'actualité sur le continent, la délégation iranienne quitte la COP28 en raison de la présence d'Israël. Des représentants iraniens ont quitté donc ce vendredi 1er décembre les négociations de la conférence de l'ONU pour le climat à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour protester contre la présence d'une délégation d'Israéliens, a rapporté un média d'État et repris par l'AFP. Et puis, sans transition, nous retrouvons l'invité de la rédaction qui est ce jour Dr Douyeri Thierry Ouattara, chef de service de la surveillance et de la riposte au niveau des services vétérinaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA, 60% des agents pathogènes qui causent des maladies humaines proviennent des animaux domestiques et de la faune sauvage. Dans le cadre du projet Ebo Sursi, un atelier s'est tenu du 22 au 23 novembre dernier à Cocody, relatif à la fièvre de Lassa et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Selon l'approche, une seule santé. Docteur Douyeri Thierry Ouattara répond donc aux questions de Paul-Bénédicte Bolou. Douyeri Thierry Ouattara, bonjour.
Bonjour.
L'atelier de validation et d'impression des outils de sensibilisation sur la fièvre de la Lassa et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo s'est tenu les 22 et 23 novembre dernier à Abidjan. De quoi était-il question?
Cette rencontre est dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet qu'on appelle Ebo Sursi. C'est un projet qui est mis en œuvre par l'Organisation mondiale de la santé animale qui appuie 10 pays dont la Côte d'Ivoire fait partie. Donc ce projet vient pour renforcer les systèmes de santé animale, santé environnementale, la préparation d'abord, la prévention et la détection des fièvres hémorragiques. Comme on a connu la maladie à virus Ebola, la maladie à virus Marburg et puis la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.
C'est quoi la fièvre de Lassa et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo?
Ce sont des maladies malheureusement qui se passent inaperçues chez les animaux, qui sont asymptomatiques chez les animaux. Par exemple, Lassa qui est transmis par les sécrétions ou les digestions des souris ne tombent pas malades dans nos maisons. Et puis la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui est principalement transmis aussi par une tique qui mord des bovins. Et ces bovins-là ne tombent pas malades. Donc ces bovins, malgré qu'ils ne tombent pas malades, peuvent infecter les éleveurs, surtout les personnes qui travaillent dans le domaine de l'élevage. Et ces personnes-là aussi, par contact, peuvent contaminer les personnes qui les sont proches.
Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire?
Ce qu'on peut dire en Côte d'Ivoire, pour Lassa par exemple, nous sommes entourés de pays qui déclarent de façon occasionnelle ou bien de façon périodique cette maladie-là. C'est pareil pour l'affaire hémorragie de Crimée-Congo. Mais les études en Côte d'Ivoire, la surveillance active a montré qu'on avait trouvé des traces de ces maladies-là dans le pays. Ça nous amène à vraiment chercher à comprendre, à préparer aussi la population pour faire face à ces maladies hémorragiques au cas où elles apparaissaient.
Quelle est la principale recommandation du projet Ebo Sursi?
Si on veut vraiment lutter contre ces maladies, il faut l'engagement de la communauté. Et pour engager la communauté, il faut vraiment qu'ils comprennent nos messages. Donc cet atelier vient pour traduire en langue plus simple les messages que nous allons donner à la communauté pour prévenir ces maladies-là. Et on a ciblé les langues locales où il y a eu des cas qui ont été détectés par les laboratoires. Par exemple, vous parlez de la zone de Korogo où il y a eu des études qui ont montré que Lassa était présent. La langue senoufo est ciblée, le baoulé et puis le malinké qui est beaucoup plus parlé par la population ivoirienne.
Quels sont les résultats attendus de toutes les rencontres que le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié jusqu'à ce jour?
Le résultat attendu ici, c'est d'être prêt. On ne sait pas quand ça peut venir, mais tout ce que nous menons aujourd'hui, c'est pour la préparation, pour faire face à ces épidémies-là. Donc aujourd'hui, pour être prêt, il faut vraiment impliquer la communauté. Et je pense que ces outils-là viennent vraiment pour faciliter ce travail-là sur le terrain.
Comment va se faire la mise en œuvre et le suivi sur le terrain?
Déjà, nous allons valider ces outils-là. Et en plus de cela, nous allons valider un plan de dissémination. Donc, arrivé à un moment, nous allons mener des missions ensemble sur le terrain avec toutes les parties prenantes. Il faut aller sensibiliser d'abord les autorités administratives, il faut cibler la communauté au fur et à mesure. Donc ça va passer à la radio, ça va passer à la télévision. En boucle, des supports, des affiches seront distribuées de telle sorte que les communautés soient de plus en plus sensibilisées. Il y a un programme de sensibilisation, de préparation qui est prévu, surtout en 2024.
De qui seront composés les différents groupes techniques et quelles seront leurs missions?
Aujourd'hui, vous regardez de loin, la gestion des maladies se fait aujourd'hui selon une approche, une seule santé. Donc aujourd'hui, c'est une équipe multisectorielle composée du ministère de la Santé, du ministère des Ressources Halieutiques, le ministère de l'Environnement, le ministère des Eaux et Forêts. En plus de ceux-là, nous on ajoute les communicateurs, les socio-anthropologues, parce que nous partons vers la communauté. Donc il faut vraiment adapter, il faut comprendre la communauté, pouvoir faire passer le message. Donc c'est toutes les parties prenantes qui sont attendues pour vraiment faire changer les choses sur le terrain.
Que doivent retenir les populations?
Ce qu'on doit retenir, c'est que nous sommes aujourd'hui entourés des menaces. C'est des menaces sanitaires de plusieurs ordres. Mais pour parler des menaces sanitaires, nous sommes aujourd'hui entourés. Et aujourd'hui, il y a des gestes simples. Ces gestes simples peuvent nous permettre de pouvoir éviter ces maladies-là. On va appeler la population aujourd'hui à faire attention, par exemple, aux animaux retrouvés morts, à ne pas consommer les animaux, par exemple, qu'on retrouve dans la bouse, qui sont morts ou bien qui sont malades, à ne pas faire le braconnage, parce qu'on tisse des animaux dont on ne connaît pas l'état sanitaire. C'est de faire attention, surtout, à ce que nous retrouvons au niveau de la forêt. Voilà ce que je peux lancer comme message.
Merci infiniment, Douyeri Thierry Ouattara.
Merci encore.
C'était le chef de service de la surveillance et de la riposte au niveau des services vétérinaires, Dr Douyeri Thierry Ouattara, invité de la rédaction. Il était avec Paul-Bénédicte Bolou. Et c'est la fin de ce rendez-vous de l'information, le rappel de l'essentiel. Reprise partielle des élections locales du 2 décembre, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto invite les populations de la région du Guémont à plus de responsabilités pour des élections apaisées. Et puis la délégation iranienne quitte la table des discussions de la COP 28 en raison de la présence d'une délégation d'Israël. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse pilotée aujourd'hui par Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous.